19h-20h. Et les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir les amis auditeurs, ravi de vous retrouver, vous le savez c'est toujours un plaisir quotidiennement ici même. Vous le savez, hein, les informés c'est quoi? Les informés c'est commenter, analyser, décrypter l'actualité en toute liberté d'expression. Allez, au sommaire de cette émission, nous reviendrons avec plusieurs invités, candidats, investis justement avec Assia Meda qui sera avec nous tout à l'heure dans une poignée de minutes, qui elle nous parlera de sa... De son investissement, de son, et puis surtout de son investiture, mais surtout, vous savez quoi, de son engagement, et vous saurez tout dans une poignée de minutes. Laurent Saint-Martin, dans la troisième circonscription du Val-de-Marne, lui aussi, il sera avec nous, député du Val-de-Marne, et il viendra nous parler de son engagement, puisqu'il a décidé, évidemment, de reporter son service, sa cause, et bien au sein de cet hémicycle, mais surtout auprès de vous. Allez, au sommaire aussi également ce qui vous attend, et bien nous reviendrons sur les déclarations de Gérard Darmanin, mais surtout la raison évidemment de cette polémique, les incidents qui se sont déroulés au Stade de France. Nous reviendrons sur cet épisode qui n'arrête pas évidemment quotidiennement. Autre sujet aussi, c'est celui, vous savez quoi, et bien du blé, le blé et les illusions dangereuses de Mélenchon. Il dit, a-t-on intérêt à réquisitionner les stocks de blé? C'est Jean-Luc Mélenchon qui l'affirme. Nous en parlerons puisque vous savez, c'est un sujet qui fait énormément débat. 19h30, le Quad 9 avec le docteur Majid Seoussine, mais vous aussi au 01 53 48 3000. Nous vous attendons, vous le savez, pour venir nous livrer votre point de vue. Les informés, c'est parti, c'est tout de suite et plus que jamais en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
L'interview du jour, c'est parti.
Les informés, l'interview.
Ça arrive, le jingle, parfois il bug comme ça, cela prouve que nous sommes en direct. Allez, l'interview, c'est avec Laurent Saint-Martin, le député du Val-de-Marne de la 3e circonscription. Bonjour, monsieur le député sortant.
Bonsoir à tous.
Dites-moi, dans quel état d'esprit vous êtes, monsieur Laurent Saint-Martin ?
Je suis dans un état d'esprit de campagne, c'est-à-dire que je consacre toutes mes journées et toutes mes soirées à m'adresser aux concitoyens de la 3e circonscription du Val-de-Marne. D'abord parce que je suis le député sortant et qu'il faut toujours rappeler quel est le bilan, c'est la particularité par rapport aux autres candidats, mais surtout parler d'avenir.
Député sortant, rappelons la circonscription, la 3e du Val-de-Marne.
La 3e du Val-de-Marne, qui est une circonscription vaste, la plus grande, 11 communes, ça va de Villeneuve-le-Roi jusqu'au plateau Briard, et donc vous avez des réalités sociologiques assez différentes, et donc il faut savoir parler à l'ensemble des habitants de cette circonscription, et c'est ce à quoi je m'attelle tous les jours jusqu'au dernier jour de campagne, c'est-à-dire jusqu'au vendredi.
Alors comment vous la sentez cette campagne? Comment vous la vivez justement, Laurent Saint-Martin, avant de parler de vos priorités? Vous la vivez comment et surtout, qu'est-ce que vous captez? Vous l'avez dit vous-même, vous êtes député sortant. Est-ce que d'abord vous êtes vous-même galvanisé par votre bilan? Est-ce que aussi vous êtes emporté par des choses sur lesquelles... Ou alors, tout au contraire, il y a des sujets qui vous frustrent, qui vous freinent, sur lesquels vous regrettez peut-être certainement durant ce bilan des 5 années passées.
Ah, vous savez, l'action publique n'est jamais parfaite et complète. Il faut aborder toujours la présentation d'un bilan avec beaucoup d'humilité. Mais ce que j'entends, puisque c'est votre question, quand je me renseigne auprès des concitoyens sur ces 5 dernières années, c'est d'abord la sensation que l'État les a protégés. Il les a protégés pendant la crise Covid, les a protégés de point de vue économique, que l'État les protège aujourd'hui face au risque d'inflation lié à la guerre en Ukraine. Et donc, ils se sentent dans un pays où le pouvoir en place a fait du mieux qu'il a pu, parce que c'est jamais parfait, mais surtout a été aux responsabilités et a assuré, comme on dit. Et donc, il faut maintenant qu'on puisse démontrer que les enjeux qui attendent notre pays sont tout aussi considérables, la poursuite de l'inflation, la transition écologique, les grands enjeux pour l'école, pour la santé, pour nos institutions. Et ce que me disent beaucoup d'entre eux, c'est que maintenant que le président de la République a été réélu, ce qui est très important, c'est qu'il puisse avoir une majorité au Parlement.
Dites-moi, vous dites que vous avez des priorités, Laurent Saint-Martin. Qu'est-ce que vous entendez par ces priorités ? Justement, durant ces législatives, on a le sentiment parfois que, vous savez, les habitants, les concitoyens ne se sentent pas concernés par ces législatives. Très honnêtement, je vous pose la question, mais c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de gens. Est-ce que c'est le vôtre ?
Oui, je concède que beaucoup de nos concitoyens sont encore loin de l'élection, et tous les porte-à-porte que je fais chaque jour servent justement à rappeler cette échéance-là, mais surtout l'importance de l'élection. Élire un président de la République dans la 5e République, c'est bien, mais si c'est pour ne pas lui donner de majorité, alors tout est bloqué, tout est coincé. Et les priorités qu'on a, la priorité des priorités, c'est le pouvoir d'achat. On a un texte qui est prêt à être voté dès la fin du mois de juin si la majorité est établie au Parlement. Si c'est une cohabitation, si c'est une minorité de blocage, alors à ce moment-là, tout ce qu'on a mis sur le programme, c'est-à-dire la revalorisation des retraites, c'est-à-dire le blocage des prix de l'énergie, c'est-à-dire le triplement de la prime en entreprise, tout ça ne pourra pas être mis en œuvre. Donc j'essaie dans mon travail de campagne de bien préciser que cette élection législative est au moins aussi importante que l'élection présidentielle, et donc il faut aller aux urnes.
Dites-moi, quand vous parlez de priorités, qu'est-ce que vous entendez par les priorités ? J'ai vu régulièrement vous parler qu'il y a des priorités vous concernant. Alors justement, on va les énumérer, ces priorités. Dans l'ordre, quelle est cette priorité ? Est-ce qu'on peut parler, par exemple, de pouvoir d'achat ?
Oui, la priorité absolue, c'est le pouvoir d'achat. Quand on est dans une situation où l'inflation...
Ça va être chaud, hein. Pardonnez-moi la trivialité du terme, mais ça va être chaud.
Non, mais vous avez raison.
Ça va être chaud.
Vous avez raison.
Je vous le dis clairement.
Mais c'est parce que c'est chaud qu'il faut prendre le sujet très au sérieux, et qu'il est hors de question de laisser les manettes à un certain nombre de responsables politiques qui, de façon démagogique, proposent des choses qu'ils ne savent pas assurer, qu'ils ne savent pas financer. Donc nous, on a démontré pendant ces dernières années qu'on savait protéger le pays, et on a ce savoir-faire-là. Il faut effectivement maintenant que le président de la République réélu puisse avoir les moyens d'agir. Je vous donne des exemples très concrets. Très concrets. Les retraités. Si vous voulez réindexer leur pension sur l'inflation, il faut une majorité au Parlement.
Oui.
Si vous voulez que le blocage du prix de gaz soit poursuivi, si vous voulez que le prix de l'électricité soit plafonné à plus 4%, oui, alors il faut une majorité à l'Assemblée. Si ce n'est pas le cas, tout ça ne pourra pas être voté. Et donc parfois la politique, c'est quelque chose d'assez simple. C'est de bien comprendre que pour agir, il faut mettre une majorité.
Mais est-ce que ça suffit, le chèque alimentaire proposé par le gouvernement ? Est-ce que franchement, très honnêtement, ça suffit ? Est-ce que ça suffit quand on leur dit, vous allez, vous inquiétez pas, les employeurs vont faire en sorte de vous augmenter et de revaloriser votre salaire ? Est-ce que c'est vrai ça, très honnêtement ? Est-ce qu'on peut tenir ce genre de discours à ceux qui vivent aujourd'hui des vraies difficultés dans le quotidien ?
Mais il y a tout un paquet de mesures de pouvoir d'achat. Prenons un exemple très concret. Le bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie. Vous savez que comme on a bloqué les prix du gaz et qu'on a plafonné la hausse de l'électricité à 4%, si aujourd'hui vous avez une facture d'électricité de 1000 euros, elle passe à 1040 euros, d'accord ? Si vous étiez espagnol ou italien, eh bien elle serait oui, aujourd'hui plus que doublée. Et ça, ce sont des exemples très concrets pour dire qu'il y a le chèque alimentaire, mais il y a le blocage du prix d'énergie, il y a l'augmentation des primes en entreprise, il y a la réindexation du point d'indice pour les fonctionnaires et pour les retraités, etc., etc. Donc c'est tout un paquet financier qui est mis sur la table pour renforcer le pouvoir d'achat des Français. Mais ce n'est pas la seule priorité.
Oui.
Vous savez, réformer l'école, repenser totalement le fonctionnement de l'hôpital public qui est en souffrance, ce sont des priorités qui sont aussi extrêmement importantes.
Dites-moi, ce sera ma dernière question avant de retrouver Assia Meda justement dans le cadre de ces législatives. Je sais, hein, on n'a pas évidemment, mais vous aurez l'occasion et le loisir de revenir sur notre antenne en parler. Je sais que le pouvoir d'achat, c'est un sujet qui vous est cher. L'enfance, la jeunesse, la famille, les aînés aussi, l'environnement, la nuance personnelle. Vous parlez aussi régulièrement d'un sujet, la fibre optique. Vous parlez aussi de la nuisance aéroportuaire aussi notamment.
Oui.
Alors, une question toute simple. Paraît-il, j'ai un peu creusé le sujet, que vous êtes, comment dirais-je, dans les petits papiers du gouvernement pour une nomination peut-être potentielle prochaine au sein de l'exécutif ?
Ça fait beaucoup de peut-être potentialité tout ça. Écoutez, vous savez qu'il faut faire les choses dans l'ordre et respecter les électeurs. Il faut être réélu député de la troisième circonscription.
Votre nom circule.
Écoutez, ça démontre peut-être que le travail est bien fait sur le terrain et qu'il est utile aux habitants. En tout cas, moi, je suis un député fier de ce que nous faisons collectivement et je veux que nous puissions continuer. Chaque chose en son temps. D'abord la réélection et puis nous verrons après.
Un mot, celles et ceux qui vous écoutent dans le Val-de-Marne, vous leur dites quoi, Laurent Saint-Martin, vous, le député sortant ?
Je leur dis qu'il faut être fier d'être Val-de-Marnais, que notre territoire, particulièrement le Sud-Val-de-Marne que je représente, est un territoire qui est bourré de potentiel. Vous savez, aujourd'hui, la première ministre Elisabeth Borne est venue à Villeneuve-Saint-Georges. Nous avons fait une réunion. On a parlé à 15 associations différentes, 15 associations de quartier. On les a mises en valeur. On va les aider financièrement. Et moi, je voudrais dire au Val-de-Marnais que un territoire qu'on dénigre trop souvent, qu'on relègue souvent à la banlieue est, comme si c'était souvent ce que Paris ne veut pas prendre. Et ben c'est un territoire avec énormément de talent, avec énormément de potentiel, avec énormément de diversité. Et moi, je suis très fier d'être député de ce département.
Merci Laurent Saint-Martin. Je le rappelle, vous êtes dans le cadre du Val-de-Marne, de la troisième circonscription du Val-de-Marne précisément. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et au plaisir. Portez-vous bien, 19h10. On enchaîne avec une autre interview, celle d'Assia Meda, justement, qui est engagée complètement, vous le savez, dans une autre circonscription, la troisième, la dixième, le troisième et le dixième arrondissement de Paris. Elle est avec nous. Assia Meda, bonsoir.
Bonsoir.
Ça va?
Oui, très bien.
Je vois que vous avez le sourire.
Toujours.
Toujours?
Oui.
Ça va? Ça se passe bien?
Ça se passe très bien.
La campagne, comment elle se déroule, justement? Alors, rappelons que vous êtes la gauche, candidate investie de la gauche du réel. Vous allez nous dire, qu'est-ce que c'est que cette gauche du réel? Je ne savais pas que ça existait, la gauche du réel, République écologique, Europe, laïcité. Vous allez aussi nous parler, évidemment, je sais que vous êtes investie dans les 3e et 10e arrondissements de Paris. Alors, dites-nous tout, Assia Meda, dans le cadre de ces législatives, qu'est-ce que vous captez?
Alors, moi, aujourd'hui, je fais une candidature pour proposer une troisième voie au duel Macron-Mélenchon. Et que je suis issue du Parti radical de gauche, le centre-gauche, qui est historiquement le plus vieux parti de France et qui a toujours porté des valeurs et qui n'a pas souhaité justement rallier ce rassemblement de la gauche parce qu'on n'a pas voulu vendre nos valeurs au détriment pour une place finalement comme ont pu le faire un certain nombre de partis.
Mais la gauche du réel, Assia Meda, ça veut dire quoi la gauche du réel? République, écologie, Europe, laïcité?
Alors nous, c'est des valeurs qu'on a toujours portées, la République, avec sa devise républicaine, égalité, liberté, fraternité et laïcité, européenne, parce que malheureusement, on voit là, par exemple, EELV a rejoint NUPES et ont revu leur position vis-à-vis, par exemple, de l'Ukraine. L'écologie, parce qu'on a une écologie plus pragmatique et moins radicale sur ces sujets. Et puis le L de réel, c'est laïcité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une valeur importante chez nous, les radicaux de gauche.
Alors justement, on va parler de votre projet. Je vous ai posé la question tout à l'heure. Qu'est-ce que vous captez dans cette campagne? Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels je posais la question à Laurent Saint-Martin, qui est le député sortant justement? Est-ce que le pouvoir d'achat font partie des sujets qui concernent celles et ceux avec lesquels vous échangez justement à Assia Meda?
Alors moi, c'est vrai que sur ma circonscription, elle est particulière dans le sens où il y a 3 hôpitaux. Donc la santé est un sujet important.
Prioritaire même.
Prioritaire.
Du moment.
Aujourd'hui encore, on a pu entendre qu'un audit allait être lancé sur les urgences, mais on connaît tous, et le gouvernement et le président de la République connaît très bien la situation des hôpitaux en France et celle de la PHP en particulier. Mmh. Donc moi, c'est des sujets de mes sujets de prédilection, étant donné que j'ai fait toute ma carrière au ministère de la Santé. Donc la santé, bien évidemment, l'éducation, puisque c'est l'avenir de nos enfants. Donc là aussi, on a des propositions fortes. Et bien évidemment, le pouvoir d'achat avec aujourd'hui des prix qui s'envolent et donc des vraies difficultés à terminer les fins de mois, même si on est à Paris, vous l'avez rappelé, 5e circonscription de Paris avec un 3e et un 10e qui cumulent aussi un certain nombre de difficultés au-delà du pouvoir d'achat, de la nuisance sonore. Des nuisances sonores, là j'étais encore avec une association, ce qui a failli me coûter d'être en retard sur le droit au sommeil. Voilà, Paris est une ville festive, mais quelque part, les riverains paient aussi le fait d'habiter à Paris, au sens de la cherté des logements, mais aussi du coût de la vie.
Dites-moi, Assia Meda, aujourd'hui, on va parler justement, on n'a pas le temps de tout aborder, on va pas tout aborder aujourd'hui. Mais là, votre campagne, elle se déroule en ce moment, on est d'accord. Quels sont les sujets, par exemple, quand on parle égalité homme-femme, quand on parle des inégalités, quand on parle de discrimination, quand on parle, par exemple, d'emploi, quand on parle de discrimination à l'emploi, tous ces sujets qui concernent le 3e et le 10e arrondissement. Comment vous le portez?
Alors, c'est une bonne question. Hier, j'étais avec une association qui fait de l'insertion par l'emploi et j'ai pu visiter aussi la Maison de l'Emploi. Donc, il y a des dispositifs qui existent et qui sont finalement portés par des associations qui viennent finalement combler aussi les services de l'État en termes d'emploi parce que malheureusement, elles sont trop éloignées finalement du terrain. Donc, moi, tous les jours, je rencontre jusqu'à 2-3 associations. C'est ma volonté de faire une campagne au plus près du terrain. Je ne bénéficie pas du portage médiatique. Et je vous remercie d'ailleurs de votre invitation que mes concurrents peuvent avoir de par leur position dans notamment Europe Écologie Les Verts avec Julien Bayou et la sortante suppléante de Griveaux. Donc voilà, moi je fais plutôt une campagne de terrain. Je vais à la rencontre des habitants, des parents, des associations pour justement essayer déjà de comprendre les difficultés et de pouvoir apporter et être en relais de ces propositions que j'essaie de faire au quotidien via mon compte Twitter. Je relaie et je me positionne sur un certain nombre de sujets et je pousse aussi les autres candidats à le faire.
Est-ce qu'il y a un sujet plus particulièrement qui vous est cher? Un sujet sur lequel évidemment vous, voilà, sur lequel vous vous attardez et avec lequel vous échangez, j'ai bien compris celui de l'emploi, vous avez rencontré les acteurs et les acteurs justement de terrain, mais vous, Assia Meda?
Moi personnellement, le sujet de la santé, le sujet, en fait, tout ce qui touche finalement à la fragilité des personnes, sur la santé, c'est un sujet.
Alors nos hôpitaux, tiens, parlons-en justement, Assia Meda. Nos hôpitaux sont malades.
Nos hôpitaux sont malades depuis un certain temps. Je me demande même s'il n'est pas déjà, entre guillemets, un peu trop tard.
Voilà, c'est ce que j'allais vous poser. N'est-ce pas trop tard? Et puis surtout, on a entendu le chef de l'État réagir. Justement, il dit vouloir justement que les hôpitaux soient une des priorités prochaines, là, tout de suite, maintenant.
Eh bien, oui, il est urgent de s'y atteler. Il aurait fallu déjà le faire au précédent mandat, mais bon, crise sanitaire oblige. On a eu des premiers de corvée, notamment des soignants qui n'ont pas compté leurs heures, à qui effectivement.
Sauf qu'aujourd'hui, il y a une pénurie d'infirmiers.
Alors, mais justement, c'est aujourd'hui pourquoi les infirmières.
On parle pas de 100 et 200, on parle de 1000, 1500, 2000.
Exactement, il manque plus de 1000 infirmières sur la PHP. J'ai rencontré syndicats, par exemple, de l'hôpital de la Riboisière, où aujourd'hui, on a des services qui ferment et des lits qui ferment par manque d'infirmières.
Et Martin Hirsch disait il y a quelques jours justement qu'il y a un manque de 1500, entre 1500 et 2000 infirmières et infirmiers.
Et aujourd'hui, c'est terrible. Ce qui pose problème à la PHP, c'est que pratiquement la moitié des infirmières ne sont que des intérimaires. Et que pourquoi les infirmières qui à un moment donné se sont engagées quand même dans des études et qui le font souvent parce qu'elles ont des vocations, pourquoi elles quittent l'hôpital? C'est ces questions-là en fait qu'il faut traiter. C'est essayer de comprendre pourquoi des infirmières qui se sont formées quittent l'hôpital et préfèrent avoir travailler avec des entreprises d'intérim, voire à se mettre au niveau...
De façon libérale peut-être ?
Libérale, mais non, la réalité c'est qu'aujourd'hui, j'ai plus le chiffre exact, mais il y a plus de 40% des infirmières qui viennent à titre intérimaire. Pourquoi? Parce que les conditions de travail pour les infirmières n'est juste plus possible. Et aujourd'hui, les seules qui restent...
Ça vous préoccupe, Assia Meda?
Bien évidemment, ça me préoccupe aujourd'hui l'hôpital. Et on sait très bien que cet été, ça va être difficile. Moi, je connais des infirmières qui ne vont pas pouvoir partir en vacances.
Est-ce qu'on peut s'attendre à un scandale de nouveau?
En tous les cas, ce qui va se passer, c'est qu'on le sait déjà, il y a des fermetures de lits. Aujourd'hui, il y a des fermetures de services.
On a régulièrement des médecins aujourd'hui qui nous ont alertés.
Exactement. Aujourd'hui, vous savez très bien que même au niveau des urgences, on est obligé de payer des gardes à plusieurs milliers d'euros pour avoir des médecins qui acceptent de travailler aux urgences. Et ça, c'est un vrai problème, parce que si on ne s'arrête
pas... Nos hôpitaux publics vont disparaître, Assia Meda?
J'espère pas. Par contre, il faut vraiment s'atteler d'une part.
Certains spécialistes parlent de ça.
En tous les cas, aujourd'hui, les urgences...
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Les informés, 19h26, pour celles et ceux qui viennent de nous retrouver, 01 53 48 3000, jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Ça, c'est le vôtre. Vous embarquez. Non, surtout pas. Je parlais du standard où vous avez la possibilité de venir, justement, de vous saisir du standard et de venir donner votre point de vue. Le face-à-face, c'est parti. 19h25.
Les informés. Le face-à-face.
Et du beau monde aujourd'hui, Jean-Pierre Colombias, ancien commandant de police, bonjour, mais également aujourd'hui, comédien, acteur, il prépare son futur show. Ouh là là, comment ça va mon cher Jean-Pierre?
Bonsoir à toutes et à tous, ça va très bien, c'est pas un show que je prépare.
C'est une pièce de théâtre, c'est toujours un show.
En tout cas, ce sera pas un seul en scène pour cette fois, ce sera une comédie.
Vous êtes en tournage, me semble-t-il, ces derniers jours?
Ces derniers jours,
ça se passe bien le tournage?
Ça peut être dur, ça donne une notion, une vision sur ce qu'est la difficulté de l'intervention.
C'est un ancien commandant de police qui fait une reconversion. Version complètement. Rudy Casier, un acteur politique, comment ça va? Comment ça va, Rudy?
Très bien.
Tout va bien?
Ouais, ça va.
À ses côtés, Gamal Abina, comment ça va?
Comme d'habitude, comme tous les mercredis, ça va très bien.
Bien. Et on a retenu Assia Meda, on ne pouvait pas s'empêcher de la laisser quitter le studio.
C'est gentil, ça. Merci.
Voilà, et j'étais en train de lire votre prospect.
Un peu plus de femmes.
Ça manquait de voix féminine. On s'est dit, allez, Asia, elle va rester avec nous. Allez, madame, messieurs, tout de suite, Stade de France, les incidents. Darmanin, l'audition au Sénat. Darmanin qui reconnaît des gestes inappropriés de policiers. Darmanin aussi avec un ton pas comme d'habitude d'ailleurs. Hein. Il, voilà. Jean-Pierre Colombiès. Allez, tiens, je sais que vous voulez en découdre.
L'ex-policier.
Je sais que vous, l'ex-policier. Il veut en découdre, lui. Allez-y.
On descend des planches, là. Je redescends sur terre, là. On va redescendre dans un.
Non, ce que tu viens de dire. Vous m'avez dit, accordez-moi quelques minutes pour préciser certaines choses. Allez-y, monsieur, monsieur le commandant, allez-y.
Je vais dire des choses qui expliquent aussi que parfois on ne m'invite pas sur d'autres, dans d'autres
médias. Bah, vous dérangez.
Alors, quand j'entends ce que tu viens de dire, parce que j'ai pas entendu l'interview, enfin, l'audition de Darmanin au Sénat, tu viens de dire qu'il reconnaît des gestes inappropriés.
Bah, c'était FA Info.
Non, mais.
Donc, je raconte pas de bobards, hein. Ça vient de tomber. Il y a 20 minutes.
Ce qu'on vient pas, Adil, mais je dis que là encore, on est dans l'hypocrisie, la tartufferie. Pourquoi?
Clochette, allons-y.
Alors, je vais vous expliquer un truc très clair. Si on veut comprendre Darmanin, eh ben, il faut s'intéresser à qui est Macron. Voilà. Darmanin, est là parce que Macron en a décidé ainsi. Et, Darmanin est le champion du monde du mensonge et de la
fausse. Vous avez trop regardé X-Files, vous.
Non, j'ai pas regardé X-Files. Je m'intéresse à la politique. Non.
C'est ça.
Je m'intéresse à la politique et je m'intéresse à ce qui fait la vie de tous les jours, à la sociologie des individus. Ce qui s'est passé au Stade de France, c'est un pur scandale. Voilà. Alors maintenant que Darmanin dit que c'est des policiers qui sont responsables.
Non, mais vous balancez des choses qui sont une évidence. Scandale. Pas de problème, Jean-Pierre Colombiès. Très bien, mais à qui la faute? Alors, d'accord, je vous écoute. Allons-y. Parlons-en.
Alors, déficit d'anticipation évident, que je sache.
En trois mois?
Mais attends, Adil, on a
déjà. On a demandé à la France d'organiser en trois mois ce qu'on fait en un an. Pour organiser ce type d'événement, il faut un an.
Adil.
Pour être au point.
Très cher Adil. On a déjà organisé des événements à risque en France, on est bien d'accord.
Oui.
Je rappelle qu'en 98, il y avait déjà eu une coupe.
Vous avez raison.
À Marseille, qui s'était très mal passé dans un match.
Vous avez raison.
Angleterre-Tunisie, pour ceux qui ont la mémoire.
Vous avez raison.
Courte. Et donc, on a l'expérience de ça. Je rappelle aussi qu'on a voulu organiser cette finale. Donc, en trois mois ou en deux mois, ben, on organise un commando administratif, on met les gens dans la même pièce et on les charge de gérer ce type de problème parce qu'on sait que potentiellement, je dis bien, potentiellement, il peut y avoir des incidents. Et certainement pas du côté des Anglais qui, eux, ont déjà bien délimiter le problème du hooliganisme et qui savent le gérer. Ce qui s'est passé, et ça on aurait pu l'anticiper, c'est qu'on a eu affaire à un problème de délinquance de masse qu'on n'a pas pu gérer. C'est quoi la délinquance de masse?
Les supporters anglais ou les jeunes des quartiers?
On sait très bien ce qui s'est passé. Il y a des centaines d'individus qui sont venus.
On parle 300, maintenant on parle 400, vous dites 100, vous.
On n'en sait rien.
C'est de leur faute, c'est ça?
La faute à qui?
La faute à ces centaines de jeunes?
Qui ont agressé purement et simplement des supporters.
Mais tous les supporters qui sont venus avec les vrais faux billets?
Mais combien?
Et on parle de 30 000 quand même.
Non, mais ça, c'est de la légende.
Darmanin, il le reconnaît, le ministre de l'Intérieur.
Il le dit lui-même.
Il dit que dans les 20 000 supporters anglais qui étaient conviés justement, dans les vrais, avec les vrais billets, 30 000 ont investi le stade, mon cher Jean-Pierre Colombiès.
C'est impossible.
Je vous le dis, il y a une chose qu'il faut quand même dire.
Franchement, maintenant c'est la faute à ces centaines de jeunes.
Pour le coup.
Non, je ne peux pas vous laisser dire ça.
Il y a bien des supporters qui étaient
frustrés. La France sait gérer ça.
Le vrai nombre. Quel que soit le nombre, de toute façon, des supporters anglais, c'est des gens un peu nerveux. Il faut aller en Angleterre pour savoir comment le niveau de nervosité qu'ils peuvent avoir, surtout pour un match où ils ont perdu. Mais au-delà de ça, non, il faut être très clair. Des faux billets ont été vendus, ils ont fait imprimer, c'était mal organisé, ça a frustré des gens qui viennent de loin.
On parle de 30 000 vrais faux billets. Alors, quand même.
10 000, 30 000, de toute façon, c'est trop. Mais ce qui se passe, c'est que la question qui s'est posée, c'est que Darmanin, s'il réagit aujourd'hui, parce qu'il faut voir ce qu'il a dit quand même, il dit qu'il reconnaît qu'il y a eu des gestes disproportionnés de la police. Pourquoi il dit ça? Non pas parce qu'il tape sur des jeunes, ça les intéresse pas. Ce qui le dérange, c'est que les Anglais, le Sun particulièrement, a dit que la France se comportait mal avec sa police. Que le reste du monde a vu les policiers français comme étant agressifs. C'est ça qui dérangeait. Donc quand il va intervenir, il n'y a pas les jeunes de banlieue. D'ailleurs, il y a eu deux tics qui ont été déférés à la justice aujourd'hui et ils ne sont pas jeunes de banlieue, c'est des clandestins. Donc déjà, mais pour être très clair, les questions qui se posent, c'est que quand on parle du SDF, du Stade de France.
Ça reste des délinquants, excuse-moi.
C'est de la délinquance mineure. Oui, mineure. Ils ont volé des papiers, c'est bidon ça. La vraie problématique qui s'est posée, c'est qu'un stade qui doit être sécurisé, il y a eu des attentats, vous rappelez quand même. Oui, il n'y avait pas Jaïl en plus, sur l'avant, ou un Palestinien, c'est la mode. Des stades comme celui-ci, il a quand même été attaqué par une série d'attentats, on se rappelle quand même. Hein.
Bah, un peu, oui.
Qu'il ne soit pas sécurisé et qu'on puisse rentrer en force comme ça a été le cas. Et là, ce n'est pas les jeunes de banlieue qui sont rentrés en force. Ils ne l'auraient jamais fait. Ça pose problème. Et la question qu'on pose aujourd'hui, c'est quoi? C'est est-ce que oui ou non, l'UEFA est responsable? Oui, elle est responsable. Est-ce que le fait d'avoir vendu des billets de façon fantaisiste, c'est une responsabilité lourde? Oui, parce que quand.
Mais surtout, comment on peut expliquer du côté espagnol, tout se passe bien, tout se déroule bien, normal. Du côté anglais, et les anglais évidemment, on et parle de fiasco.
Justement, le hooliganisme.
Il faut m'expliquer, les amis. C'est pour ça que Jean-Pierre, quand vous dites une centaine de jeunes voyous, ok, très bien, mais soit.
Que je dis, non, mais je n'y étais pas, parce que je dis, ces deux sources de terrain, c'est-à-dire que des fonctionnaires de police dont j'ai eu le retour, on décrit ce qui s'est passé.
Moi, j'ai eu des amis qui étaient sur place aussi. Hein.
Oui, mais aussi des agressions de touristes.
Il y en a eu, mais c'est marginal.
Des perquisitions.
Il y en a eu, je dis pas non.
Des perquisitions qui ont été faites chez certains mis en cause ont permis la découverte à la fois de faux billets, exact, ouais. Mais aussi de biens personnels, téléphones et valeurs ayant appartenu à des supporters. Il y a eu des agressions en nombre, en masse. Et je rappelle.
Ça, vous nous l'affirmez.
Oui, je l'affirme.
Non, c'est pas discutable. Ce qui est discutable, c'est pas ça. Ce qui est discutable, c'est le fait que s'il y a eu des agressions, c'est qu'il y a eu un problème. C'est quoi le problème? C'est que les supporters étaient restés à l'extérieur.
Oui.
Et donc exposés à de potentielles agressions.
On aurait dû l'anticiper.
C'est qui ces agresseurs? C'est qui le profil de ces agresseurs?
C'est des petits jeunes qui ont voulu faire leur petit numéro. Mais c'est pas le problème.
C'est des petits jeunes, c'est des délinquants.
Non, mais délinquants. Mais de préciser, moi, je veux qu'on soit factuel. Ils viennent d'où, ces délinquants?
Des jeunes délinquants sans papier. C'est ce qu'on a retenu aujourd'hui. Ce qui est important de rappeler, c'est que les supporters.
Qu'on dit les sans papier, qu'on dit les jeunes du 93, un jour, on dit les quartiers populaires. Bon.
Ce qui se passe, c'est que les supporters anglais, pour les avoir vus à Paris, sont extrêmement tendu. C'est
je redonne la parole justement à Rudy Kazi, mais également à Assia Meda. Il est 19h33, je me suis mis très nettement en retard. Le quoi de neuf?
Les informés, le quoi de neuf?
Avec le docteur Majid Séhoussine. Bonsoir docteur.
Bonsoir Adil.
Allez, je vous écoute mon cher docteur, je suis désolé de ce retard. Nous vous écoutons avec votre billet d'humeur consacré, mon cher docteur Majid Séhoussine, à l'amour. Je m'attends au pire avec vous, nous vous écoutons.
Alors mon cher Adil, comment ça va?
Très bien.
Est-ce que vous êtes content de votre nouvel iPhone 13, tout juste apporté d'Angleterre?
Oui, c'est ça.
Que vous avez récupéré samedi au Stade de France après avoir tabassé une jeune anglaise?
C'est pour ça que je dis, je m'attends au pire avec lui. C'est pour ça, je le sais, mais avec le docteur Majid Soussi, je m'attends toujours au pire.
Lui, il n'a pas de clochette.
Non, si, depuis tout à l'heure, on fait que ça. C'est sa cinquième clochette, là. Allez-y, docteur.
Écoutez, Adil, il n'y a pas à dire. C'est Jordan Bardella qui a raison. L'immigration gâche tout en France, y compris les finales de la Ligue des Champions. Hein, vous vous en sortez bien, dites. Mais sans doute un peu mieux que ces pauvres familles gazées en terrasse alors qu'elles buvaient Pézine Leblanc et une bière. Le préfet l'allemand, ouais. Vous savez,
ouais.
Celui auquel les fabricants d'œil de verre ont dressé une statue, se prend pour le comte de Toulouse. Vous savez, le comte de Toulouse qui, lors du siège de Béziers, ouais. Lors de la croisade des Alpes, avait déclaré
«
Tuez-les tous,
Dieu
reconnaîtra les siens ».
Exactement.
En tout cas, tout ceci ne le laisse pas être serein pour l'organisation des Jeux Olympiques de Paris. J'ai très très peur pour la santé mentale d'Anne Hidalgo, qui ne se remettra pas d'un second échec. Après avoir échoué à être aimée par plus de 1,74% des Français. Dont ceux qui ont besoin d'être aimés, je pense qu'on peut y visiblement rajouter les professionnels de santé des hôpitaux qui désertent en masse et rejoignent peut-être tous les travailleurs de l'hôtellerie, de la restauration. Vous savez, tous ces gens qu'on ne voit pas, à qui on prête à peine attention et à qui on ne dit pas toujours merci, et qui disparaissent là depuis le Covid dans une sorte de trou noir sans que l'on sache réellement où ils sont. Pour résoudre la crise des hôpitaux, qu'on présente à tort comme la seule crise des urgences, Emmanuel Macron propose une mission d'un mois. On se demande quand même si ce délai d'un mois n'a pas pour seule vocation de laisser passer les législatives. Car, après tout, quand même, on a l'impression que sur l'hôpital, tout a été dit, tout a été écrit, qu'il y a déjà eu suffisamment de rapports. D'ailleurs, votre serviteur lui-même a fait paraître en 2020 et en 2021 deux tribunes dans Le Monde. Et finalement, moi j'ai toujours pensé que le monde, finalement, a besoin de plus d'amour. Et c'est d'ailleurs probablement ce que cherche à faire Vladimir Poutine à l'Ukraine, pour lequel il a le même genre d'amour que Johnny Depp pour son ex-compagne.
Oh, il est dur là.
Oh. Allez, Johnny Depp, c'est double clochette, lui. Hein. Ah là 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 là, docteur.
Il est dur.
Brûle ce que tu as aimé et adore ce que tu as brûlé. C'est ce qu'aurait déclaré Rémi, l'évêque de Reims, au baptisant Clovis.
Ouais.
Nous pourrions peut-être remettre au goût du jour cette phrase, en remettant à leur juste place ces influenceuses qui nous vendent l'eau de leur bain, ces footballeurs qui sont devenus les idoles de notre jeunesse, ou ces politiques ignares et sans scrupules qui nous gouvernent. Et peut-être se remettre à respecter l'instituteur, l'infirmier, et qui sait, même le policier, quand il redevient ce bon vieux gardien de la paix d'autrefois, débonnaire, se baladant tranquillement dans les rues.
Eh bien, bravo pour ce billet d'humeur, comme chaque mercredi. Vous êtes là, effectivement, mon cher docteur Majid Sioussine, chef de service à l'hôpital Sainte-Cavani, aux Invalides, chez les militaires, mais également aussi au SAMU. Mon cher docteur, à oui, mercredi prochain, sans faute, n'est-ce pas?
Sans faute, mon cher.
Merci, Majid, pour la cartouche.
Absolument. Allez, on marque.
Juste une précision, ne nous trompons pas. Je ne fais pas la défense de la préfecture de police. Loin de là, je ne défends pas un préfet qui se compare au général Galifet, le massacreur de la commune. On va être très clair. Hein. Mais par contre, il faut que chacun prenne sa part de responsabilité. Et un petit point quand même qui est essentiel sur la nomination de Darmanin, qui n'aurait jamais dû avoir lieu, correspond à la volonté d'Emmanuel Macron, qui est une volonté de rupture, qui est une volonté de fracturation de l'opinion publique. En nommant des gens comme lui, comme Éric Dupond-Moretti, l'ambition de Macron n'est pas la paix sociale. Il est simplement d'occuper l'esprit de l'opinion publique pendant ce temps. On ne parle pas, comme il vient d'être dit, ni de l'hôpital qui est en crise majeure, ni du pouvoir d'achat dont on va reparler.
Allez, on marque la pause.
Sociale profonde.
Pause, pub, la dernière pub justement de cette tranche durant justement des informés sur Beurre FM. On se retrouve, je donne la parole avec Rudy Kazi qu'on n'a pas entendu, mais également Asia Meda. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés revient dans un instant. 19h, 20h, les informés avec Adil Farkan.
19h44 avec justement Rudy Kazi, avec Gamal Abina, avec Jean-Pierre Colombiès qui n'arrête pas, y compris pendant la pub, avec Asia Meda. Tiens, allez, sur le Stade de France, l'audition justement de Gérard Darmanin au Sénat. Alors, nous vous écoutons, Rudy Kazi, ensuite Asia Meda.
Non, mais par rapport à ce sujet, les choses auraient pu être tout autres si on avait fait plus d'anticipation, parce que ça faisait déjà plusieurs jours, pour ceux qui suivent un peu le foot, ce qui est un peu mon cas, ça fait plusieurs jours qu'il y avait déjà des associations...
Qui avait alerté. C'est vrai, vous avez... voilà. Il y a eu même des notes.
Et effectivement, il y a des notes qui sont parvenues au gouvernement, qui sont parvenues à l'UEFA, etc. Et c'est quand même assez interloquant qu'on n'en ait pas tenu compte. Du moins, de la manière dont les choses se sont déroulées, ça montre absolument pas qu'on en ait tenu compte. Maintenant, derrière, je trouve que au niveau communication, ça n'a pas été géré de la meilleure des manières, en fait, parce que...
Il a merdé, clairement, pour être trivial, Gérard Darmanin.
Bah, je trouve que j'étais... Après, il y a eu une forme de rétropédalage au Sénat, où effectivement, il a dit qu'il reconnaître des erreurs de la part de la police, mais c'était pas son premier biais lorsqu'il a commencé à communiquer là-dessus. Maintenant, c'est vrai que...
Se sont présentés autour du Stade de France.
Mais là où il a pas tort.
Alors qu'on parle simplement de
75 000. C'est que du côté des supporters de Liverpool, il y a eu aussi des mauvais comportements. Il y a une chaîne en fait de responsabilité qui est large. Alors effectivement, c'est l'exécutif qui est censé devoir bien gérer les choses de toute façon, mais le maintien de l'ordre en France, c'est quand même quelque chose qu'on a encore du mal à faire. Je veux dire. A priori, il y a un métier, mais quand vous regardez comment est-ce qu'on a géré certaines situations avec les gilets jaunes, on aurait pu mieux faire. Et hier, je trouve que on aurait pu mieux faire. Déjà, il manquait, je pense, un peu plus de personnel de police.
Ils étaient 6 800 quand même.
Ils étaient beaucoup, hein.
C'est considérable. Bah,
en tout cas, la répartition sur le terrain, moi, j'ai pas.
Les images que j'ai vues, je trouvais que c'était pas terrible. 110 000 personnes.
Non, pour moi, c'était sous-dimensionné, hein, le service d'ordre. Hein.
Bah, 50 000 personnes.
Mais après,
moi, je trouve que c'était pas.
000.
Je trouve que c'était pas assez. Déjà, et le cordon de sécurité des stadiers, eux aussi n'étaient pas assez nombreux. Donc, c'est une situation avec les faux billets qui, de toute façon, étaient courus d'avance, que ça allait péter dans tous les sens. Et c'est le manque d'anticipation qui a été gênant. Par contre, je pense que ça se reproduira pas tout le temps au Stade de France.
Il vaudrait mieux.
Non, mais il y a le match là ce vendredi.
Oui, mais d'accord, mais on regarde de toutes les fois, on a organisé des matchs au Stade de France, ça n'a pas toujours dégénéré comme ça.
Non,
et ce type de rencontre, parce que c'est pas la première fois qu'il y a eu un Liverpool-Real Madrid, ça s'est passé aussi, d'ailleurs à Madrid, il y a 2 ans. Il y a eu aussi des échauffourées.
Oui,
il y en a eu aussi, avec des histoires de faux billets.
Mais c'est pour ça qu'on n'a pas droit à l'erreur.
Donc, je suis d'accord. Faut pas en avoir peur. Vendredi, ça va pas forcément avoir lieu.
Non, moi, j'ai peut-être juste réagi.
Asia Meda.
Maintenant, j'ai pas écouté.
discuté, hein, mais de ce que je peux lire et voir, on voit
et que. Et le stade Wimbledon, petit... il s'est pas passé un incident, non?
Ah oui, mais non, pas, à Wimbledon.
À Wimbledon, Wimbledon voilà.
Aussi, pareil.
Un tout petit mea culpa de la part de Darmanin. Je trouve qu'il n'assume pas grand chose, il reconnaît pas grand chose.
C'est pas bien dans le micro.
Et on ne peut que le regretter. Donc un tout petit mea culpa. Peut-être pas à la hauteur de la réalité de la situation. Il fait un peu.
En tout cas, il
connaît. En tous les cas, il se sent un peu obligé de le faire, je trouve. Mmh. Il aurait peut-être pas fait, effectivement, si les choses n'avaient pas été médiatisées, si la presse étrangère avait réagi sur la situation et avait montré du doigt, justement, l'incapacité de la France à pouvoir gérer ce type de situation à la veille de Coupe du Monde, de rugby, des JO de 2024. Donc voilà, ça interpelle beaucoup. On a vu effectivement par le passé des comportements très durs, violents de la police vis-à-vis des gilets jaunes et autres. À chaque fois qu'il y a des manifestations, voilà, il y a souvent de la violence. Donc ça, moi en tous les cas, ça m'interpelle sur la manière dont les services de police et le ministère de l'Intérieur gèrent ou anticipent ce genre d'événements.
Alors justement, je vous pose une question. Est-ce que la France est prête justement à organiser ce type d'événement? Il y a les JO qui arrivent.
L'intérêt sur ces
les JO arrivent.
Non, mais on a organisé
les JO.
Excuse-moi, la marée humaine, les masses.
Il y a du foot.
Il y a du foot. Je suis pas d'accord avec vous.
Il y a pas le
vous sous-estimez, mon cher Gamalabina. Vous avez déjà fait
Angleterre-Tunisie, des incidents effectivement avec les supporters et la rue Saint-Ferréol, j'y étais, mise à sac par les délinquants des quartiers nord aussi, qui sont venus, que ça plaise ou pas, c'est une réalité.
Mais il y a une réalité aussi, c'est qu'il
y avait une sorte de règlement de compte aussi.
Oui, l'initiative, moi je me rappelle très bien.
Je justifie rien.
S'il vous plaît, dans l'ordre, sinon ça devient inaudible. Dans l'ordre.
Et vous oubliez.
Par contre, à l'euro, il n'y a pas eu de débordement.
Vous oubliez ce qui s'est passé aussi sur le quai de la Saint-Étienne.
Merci de le rappeler, Jean-Pierre Colombier.
Le jour même. Non, mais il y a un vrai problème.
Par rapport à Saint-Etienne, c'est plutôt le comportement des supporters qui, sur cette saison en Ligue 1, a été exécrable.
Franchement, il y a eu des problèmes cette année, vous en parlez sur votre antenne.
Oui, mais c'est les supporters, c'est encore différent, c'est à l'extérieur, c'est à l'intérieur du stade, c'est pas à l'extérieur.
Donc la France n'est pas prête, alors.
C'est pas normal.
Mais je suis d'accord.
Gamalabina,
s'il vous plaît.
La violence dans les stades de foot, c'est pas une nouveauté, ça a toujours arrivé, on l'a vu avec les ailes et tout ça, c'est pas arrêté.
Mais faut pas s'y habituer.
Non, c'est pas qu'il faut s'y habituer.
Cette année, ça a été particulier.
Non, c'est pas cette année, ça a toujours été le cas depuis.
Non, les envahissements de stade,
depuis longtemps. C'est pas d'hier.
Gamalabina.
Le problème, c'est que, on l'a déjà vu à l'époque avec le match Algérie-France, c'est pareil, il y a des tensions, il y a des enjeux, il y a des choses qui se passent mal.
À l'époque.
Mais c'est constant, c'est pas l'époque, ça ne s'arrête
jamais. Non, les envahissements de stade, c'est pas constant. Cette saison en Ligue 1,
il parle d'un truc, je parle d'autre chose. Je parle de violence dans les stades. Restons sur le sujet et pas les envahissements. Donc la violence à la sortie des stades de foot.
Moi, je pose une question très claire. Est-ce que la France est prête justement à accueillir ce type d'événement? Il y a les JO prochainement.
Non, mais justement, je fais une distinction entre les JO qui sont plus familiaux, c'est pas les excités du bulbe. Non, mais sincèrement, quand on voit la gueule des footballeurs.
On les dit que c'est pas populaire.
Le problème du foot, c'est que c'est des réactions épidermiques. On est vraiment dans
des Anglais.
Ils font, en plus, enfin, les Anglais ont inauguré le fameux hooliganisme. Pour l'oublier, il y a eu des morts. Ce qui s'est passé à Marseille, je me rappelle très bien ce qui s'est passé, j'ai un copain qui était sur place. Les Anglais vont massacrer les Tunisiens qui étaient en sous-nombre. Ils en ont profité, ils sont régalés. Les quartiers nord, majoritairement algériens, sont venus prêter main forte aux Tunisiens parce qu'ils ont vu qu'il y avait des réactions qui étaient assez sales. Ce match-là est un match qui était crade dans la mesure où il n'y avait pas de raison.
Il faut en parler aux commerçants de la rue Saint-Ferréol qui se sont fait péter toutes les vitrines.
Ça, c'est ce qu'on appelle, du dégât collatéral qui arrive tout le temps.
Il était Jean-Pierre Colombier, commandant de la police, messieurs.
Oui, mais à ce moment-là, il faut reconnaître que l'agression. Moi, je suis toujours l'origine du mal. Quand quelqu'un met le feu, ce qui m'intéresse, c'est qui met le feu. les Anglais agressent les Tunisiens, les Arabes de Marseille, donc les Algériens, vont prêter main forte et après ça dérape. Mais le problème de l'Anglais, c'est qu'il a tendance, je parle du supporter de base.
Je défends pas l'Anglais.
Non, non, je parle de ça. Là, on parle de Liverpool. Liverpool, c'est quoi? Oui. C'est une des villes les plus pauvres d'Angleterre. Donc, faut un niveau de beaufry, des gens qui vont
oui, mais ça, on est d'accord.
Pas d'amalgame, pas d'amalgame.
Non, mais c'est la vérité.
C'est vrai.
Quand j'ai vu les supporters, fallait rentrer dans les trains, c'était chaud. Les transports en commun étaient suspendus. Le tram a été suspendu parce qu'ils étaient trop nerveux. On sentait déjà une atmosphère. Et je vais rappeler une chose importante.
Mais si les Marseillais peuvent revenir au sujet,
De leur côté, les Espagnols de leur côté se sont bien comportés. C'est QFD.
Non, mais après, là-dessus.
Et ensuite à Saméda.
Maintenant, si on prend le biais culturel, évidemment, je veux dire, les Anglais, ils sont plus que passionnés. Et la question de Liverpool, c'est une question à mettre en parallèle aussi avec le derby anglais et Manchester de l'autre côté. Il y a eu souvent des affrontements. C'est comme ça que c'est dans cet affrontement-là qu'est né le concept hooliganiste. Maintenant, par rapport à la question que vous posiez tout à l'heure, Adil, est-ce qu'il y a des craintes pour les prochains événements? Oui. Mais non, oui, c'est pas les mêmes. Oui. Non, alors après, parce que il y a quelque chose qui s'est peut-être réveillé.
Jean-Pierre Colombier s'est dit oui, il y a des craintes.
D'ailleurs, mais il a le droit de le penser.
Mais moi, je pense en termes de terrorisme.
Est-ce que je peux terminer, s'il vous plaît? À un moment donné, ce serait bien de pouvoir
nous couper une phrase.
On accepte de se faire couper.
Redis, allez-y.
Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où il y a eu une espèce d'émulation des violences à l'intérieur des stades, cette saison c'est particulier. Il y a eu beaucoup de stades en Ligue 1 qui ont été envahis et pas qu'en Ligue 1. Je me rappelle qu'on a beaucoup critiqué la Coupe d'Afrique des Nations, mais ce genre d'événement ça se produit pas là-bas. Bref, à partir de ce moment-là, on sent qu'il y a quelque chose qui se réveille chez les supporters. Il y a quelque chose qui se réveille chez les supporters, une espèce de folie, etc. Donc c'est ça qu'il faut surveiller. Mais sinon, dans l'ensemble, il n'y a pas de problème en général.
Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Pierre?
Pour pouvoir surveiller
Jean-Pierre,
les stades.
Jean-Pierre, combien? Jean-Pierre, je vais rendre l'antenne. Ça y est, vous avez séparé.
Du coup, est-ce que je peux juste te dire, pour rappeler un peu que dans les chiffres, la moitié des individus interpellés étaient britanniques. La moitié à avoir sauté les barrières étaient britanniques. Donc à un moment donné, on aurait pu anticiper ce genre de match quand on sait que l'Angleterre, effectivement, joue en France. La question par rapport au JO, alors il y aura peut-être pas des débordements, mais en tous les cas, notre incapacité à avoir géré à un moment donné des jeunes gens qui escaladent, la question du terrorisme demain, dans une ville comme Paris, avec des stades qui sont positionnés sur la Seine-Saint-Denis, ça interroge. En tous les cas, on a peut-être encore quelques années devant nous, mais il va falloir se bouger.
Si je puis me permettre, c'est pas qu'un problème d'ordre public. Le problème des Jeux Olympiques, c'est que ça va drainer un public qui va venir supporter non pas que des équipes de foot, mais leur équipe nationale. Des gens qui vont venir de l'étranger et qui donc, par conséquent, seront très attractifs en termes de délinquance. C'est ça qu'il va falloir. Et c'est ça qu'on n'est pas capable. Vous voyez, on sera pas capable.
C'est
de
un sujet gérer. Que je vais continuer d'avoir.
Très
c'est
compliqué.
Un sujet que je vais continuer de traiter parce que, franchement, tout le monde se pose les mêmes questions. Merci Asia Meda.
Merci de votre invitation.
Rappelez vite, vous êtes candidate dans les 3e
et 10e arrondissement à Paris. C'est la 5e circonscription.
Et elle est en campagne.
Ouais, merci. La gauche du réel.
Jean-Pierre Colombiès.
Dommage que ce soit pas plus long. Il y aurait plein de choses. Mais un million de choses à dire.
Redi Kazi, à bientôt.
À bientôt.
Gamal Abila, à bientôt.
Merci. Bertrand.
À la réalisation, c'était Yanis. Tout de suite, Bilal Nedman et son show Time Sport et justement son équipe pour vous divertir autour évidemment d'un sommaire sportif. Et ça se passe de 20h à 21h. Quant à moi, à demain, vous le savez, avec autant de plaisir. Mais surtout, c'est quoi? C'est un habitué de l'émission.
C'est quoi?
on ne lâche rien, les amis.
On n'est pas là pour lâcher quoi que ce soit.
Vive la
République sociale.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.